Léo Ferret, La mémoire et la mer, dans Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4.
Trou Noir, donc, avec Daniel Pinault, c'est évidemment, on ne va pas pouvoir parler de tout ce que tu as fait ensuite. Hein, donc, certainement, on va prendre notre rendez-vous après les vacances. Mais tu peux peut-être un petit peu parler de. Donc, on est dans les années 81, 82, hein, c'est ça. Et bon, où il y a encore des luttes par rapport aux insoumis, comme tu l'as dit. Mais je crois me souvenir d'ailleurs que tu as été dans ce qu'on a appelé les imprimeries militantes à un moment. Tu n'as pas été autographe ?
Oui, j'ai bossé une époque à Autographe, qui est devenue Expression depuis, avec la fusion des deux imprimeries, Autographe Expression. Ouais. Ça n'a pas été une longue expérience, parce que je suis resté quelques mois seulement, mais j'ai eu la chance de quand même de rentrer dans cette boîte au contact de copains, de vieux copains.
Gérard
n'y était plus.
Ah, il n'y était plus quand
ouais,
il y
ouais,
avait.
Ouais, ouais, il a,
moi, j'ai bien connu ce milieu-là, c'est pour ça que j'en parle à travers la maman de ma fille, qui était notamment à Edith 71. Enfin, il y avait
tout un réseau, pour ceux
qui n'ont pas connu ça,
d'imprimeries
militantes.
Exactement.
Qui ont eu, d'abord pour faire travailler d'une autre façon les compagnons qui étaient, mais aussi qui ont soutenu pour sortir des tracts, sortir des brochures, enfin. Je sais que nous, à l'époque, on soutenait les mouvements clandestins ouvriers en URSS et ils nous ont beaucoup aidés à sortir des choses qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Enfin, ça avait une certaine importance. Donc, comme j'ai su que tu avais été autographe, je voulais t'en parler un peu.
Mon rôle à Autographe, quand j'y suis rentré, c'était de monter le secteur PAO. Parce que l'imprimerie n'avait pas de mise en page numérique. Ça n'existait pas. Hein. C'était je suis rentré à Autographe en 1990, hein, si je me souviens.
Ah oui, d'accord.
Non, pas 90, 91, janvier 91. Et c'était pour aider les copains à mettre en place tout le secteur PAO, acheter les ordinateurs.
Oui, parce que toi, entre-temps, tu avais eu une formation dans ce
domaine. Oui, j'avais été étudiant en CFDA. Enfin, ça, c'est quand je suis arrivé à Paris, j'avais fait un voyage en Amérique latine. Bon, auparavant, j'avais laissé un petit peu tomber cette histoire d'antimilitarisme, parce qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose quand même. Donc, j'ai voyagé en Amérique latine.
Au Chili
notamment, mais aussi en Bolivie, d'accord, au Pérou, en Argentine. Ben moi, j'avais hâte de découvrir ma famille chilienne, parce que j'ai toujours une partie de ma famille au Chili. J'avais un frère au Chili. Donc, et puis je rêvais de voyager, chose que pendant l'insoumission, j'avais plus de difficultés à faire. J'avais un vrai passeport pour le coup. Et donc voilà, et j'avais commencé à faire une formation CFDA, payée par l'université Pierre et Marie Curie, dans laquelle j'ai travaillé à partir de 1983, dans des boulots administratifs. Et puis je me suis retrouvé à la cellule éditoriale de l'université, grâce à ma formation. Et à un moment donné, les copains d'Autographe m'ont sollicité en me disant « Mais viens travailler avec nous dans le projet coopératif. On a besoin de quelqu'un qui connaisse, maîtrise les outils numériques. » Pour mettre en place ce secteur, donc je me souviens, je l'ai mis en place avec un copain argentin, Tupamaro, Miguel d'Atena, un vieux copain, voilà, j'avais monté la boîte. Mais bon, je ne suis pas resté, et après je suis, très longtemps en fin de compte, et après je suis revenu dans l'éducation nationale à Paris 4.
Paris 4, c'est pas Jussieu.
La Sorbonne.
Ah, c'est la Sorbonne.
Voilà,
j'avais
quitté Jussieu, voilà. Et ensuite à Paris 3. Dans cette période-là, je vais participer à toutes les luttes universitaires qui vont relier les étudiants, les profs, mais aussi les personnels administratifs, techniques.
Cette période-là ?
Oui, bien sûr.
Ça avait bougé pas mal. Hein.
Alors là, on était.
C'était à Jussieu, non ?
En 86, j'étais à Jussieu.
Ah, c'est en 86.
Et je fais partie de la coordination universitaire de Jussieu. Avec occupation de l'université pendant quatre semaines, et avec une lutte qui a porté ses fruits, puisque de Vaquet.
Oui, d'ailleurs, tu y as participé, je crois qu'il y a eu un bouquin. Moi, j'ai lu un bouquin.
Alors, ça, c'est autre chose, c'est une deuxième lutte à laquelle j'ai participé sur le plan universitaire.
Mais c'était à Jussieu aussi.
Alors, non, là, j'étais à la Sorbonne Nouvelle, à Sancier. Où j'étais déjà, comme je le suis aujourd'hui, dans la médiation d'édition, éditeur et graphiste. Et là, j'ai participé à cette lutte contre ce qu'on appelait le CPE, le contrat première entreprise, contrat de misère qu'on proposait aux jeunes en les payant en dessous du SMIC pour qu'ils aient un emploi au sortir de leurs études. Donc on s'est battu, pareil, là il y a eu ce qu'on a appelé les blocages, parce qu'on n'appelait plus ça occupation, le nom a changé. Mais blocage, ça vous dit dire bloquer l'université, l'occuper, empêcher la tenue des cours pour faire pression sur le gouvernement.
Il y avait un mouvement très vaste au niveau des jeunes et tout ça, je me rappelle, il y avait des grosses manifestations.
Grosses manifestations étudiantes, lycéennes, des collèges aussi, mais aussi des interprofessionnels aussi. Il y avait des entreprises dans lesquelles il y a eu des grèves, des grosses participations des travailleurs, des syndicats et des organisations ouvrières en général dans les cortèges du CPE. Moi, je me rappellerai une énorme manif contre le CPE, où je m'en rappellerai toujours. Il y avait plus d'un million de personnes à Paris. Je crois que depuis, on n'a pas fait mieux.
Oui, c'était énorme. Hein,
voilà. Et à la fin, on le sait, le gouvernement a retiré le projet. Malheureusement, 2 ans après, on s'est battu aussi contre la réforme Pécresse, réforme libérale des universités.
Oui, et là, ça commençait vraiment à s'affirmer, cette réforme libérale. Bon, il y a eu plusieurs choses qui ont suivi, mais là, c'était déjà la première étape importante.
Voilà, Et là, dans le cadre de la CNT, la section syndicale de la CNT dans laquelle j'étais militant, on a participé à tous ces événements-là. On avait une grosse section syndicale au niveau de la fac. On a été à l'origine de beaucoup de choses, notamment le journal de résistance de la fac qui s'appelait Mordicus. On a créé un ciné-club dans la fac qui s'appelait, qui avait pour titre les écrans rebelles. On a fait un certain nombre d'événements culturels, notamment des concerts avec Fred Alpi, Serge Outier-Royot, dans la fac, en faisant venir des groupes. Alors j'ai oublié maintenant. Joli Môme, par exemple. Môme, voilà. C'était une façon d'animer la fac pendant les grèves. Quoi. Donc voilà, c'est un grand événement aussi pour moi.
C'est là-dessus qu'il y a eu un livre qui est sorti, c'est ça ?
Et à la suite de ça, une année après, on a recueilli les témoignages de tous les participants, qu'ils soient étudiants, profs, administratifs. Et à partir de là, on a fait un ouvrage très documenté, parce qu'il y avait énormément de photos prises, notamment par un copain photographe de la fac, Eugenio Prieto, qui est un vieux compagnon espagnol. Et on a fait un bel ouvrage très documenté qui évoque toute cette grève, parce qu'on pensait aux éditions CNT à l'époque qu'une grève qui ne s'accompagne pas de témoignages, qui reste sur le papier, c'est une grève qu'on occulte très rapidement et qu'on oublie. Alors donc on l'a fait, moi je suis très content de l'avoir fait, parce que ça a été aussi un beau travail d'introspection, de réflexion de la part des camarades qui n'étaient pas tous à la CNT. Il y avait déjà des gens de différents secteurs, du SNESUP, de la CGT notamment. Et voilà, donc ça a été les grands moments de ma carrière universitaire sur le plan militant. Quoi.
Oui, et je ne sais pas si dans la même période, tu as participé à une revue Un autre futur aussi. Alors, je ne sais plus à quelle période.
Oui, ça c'était avant, parce que j'étais avant de rentrer au syndicat de l'éducation de la CNT, juste après 2000, on a créé Un
avec
autre
Tardy,
futur. Voilà, c'était une revue du syndicat de la communication, de la culture, du spectacle de la CNT. C'est une revue qu'on a créée, c'était une revue sociale et culturelle. La volonté, c'était d'associer les deux. On était travaillé sur le terrain culturel, de l'édition, au niveau artistique, et dans différents secteurs. Et on a décidé de créer ce journal. Alors bon, à l'époque, j'avais des liens très privilégiés, mais ça, c'est encore une autre partie de ma vie. C'est l'adoption de mes deux enfants avec Dominique Grange et Jacques Tardy. Et ils ont été très séduits par la manif de mai 2000.
Oui.
Tardy était toujours très instinctivement anarchiste. Dominique Grange ne l'était pas, mais elle l'était devenue. Elle, c'est une ancienne Mao.
Voilà. Oui, oui.
On va pas refaire l'histoire, mais c'est comme ça. Et à ce moment-là, avec un certain nombre de vieux copains, comme Jean-Louis Van Van notamment, on va créer une revue de la revue de la communication culture-spectacle de la CNT, Un autre futur, et on va publier une dizaine de numéros en 2 ans. Voilà. C'est une belle expérience parce qu'il y a des gens comme Michel Bouju de Charlie qui participent, Pétillon participe, Ciné participe. On a droit à des dessins originaux de ces gens-là. Et dans cette revue, on va parler d'histoire, de culture, de spectacle. On va parler évidemment de lutte sociale. C'est une belle expérience qui, malheureusement, ne va pas va s'arrêter malheureusement un peu trop tôt, pour des raisons que je n'évoquerai pas ici, parce qu'il faudrait évoquer les dissensions au sein de la CNT. Oui, je n'ai pas envie de le faire. C'est une partie de mon histoire que je préfère oublier plutôt que de l'évoquer.
Tout à fait.
Et voilà, quoi.
Oui, mais j'ai un peu approché tout ça à travers notamment Jean-Louis Fanvan, et que moi j'ai connu tout à fait après 68, et quand on était à l'Alliance syndicaliste, et c'était une bande de petits jeunes qui sont venus nous voir, dont Jean-Louis, et qui nous ont dit « formez-nous !» Je me rappelle, c'était très drôle, enfin très drôle, surtout qu'on n'était pas spécialement organisé pour ça. Et quand j'ai revu Jean-Louis, un certain temps après, c'était dans la période que tu décris. Donc effectivement, la revue, j'ai les exemplaires, etc. Donc c'était quand même quelque chose d'intéressant.
Bien sûr.
Que je la recevais, moi.
Je l'avais imaginé parce qu'on avait un potentiel. Les événements de mai 2000 avaient eu lieu. Alors il y a des copains qui ont dit, oui, mais c'est une revue pour Bobo, parce que vous comprenez, vous donnez la parole à des gens qui sont établis. Ce n'est pas un journal militant. Mais l'objectif, c'était pas de faire un journal militant comme les autres. En mai 2000, on avait eu la chance d'avoir des gens comme Cartier-Bresson.
Peut-être dire deux minutes ce qu'est mai 2000, parce que j'y ai participé, mais je suis pas sûr que tous les auditeurs y participent. Et puis, il te reste allez, 5 minutes pour parler de ça.
Mai 2000, c'est en mai 2000, évidemment, que ça a eu lieu.
Effectivement.
Mais c'était sur le thème « Un autre futur », déjà, puisqu'on s'est inspiré du nom de cet événement. On a voulu, à la CNT, créer quelque chose qui touche à toutes les formes d'expression sur une semaine, avec pinacle, une grosse manif du 1er mai, dans laquelle l'objectif, c'était de montrer la puissance, l'importance du mouvement libertaire aujourd'hui en France, mais aussi avec le renfort de délégations qui venaient de l'étranger.
Je me rappelle les mineurs gallois.
Notamment la fanfare des mineurs gallois,
enfin,
bien
quand
sûr.
Quand même, dans ce cortège, c'était
c'était magnifique.
Avec les instruments. Après, on s'est retrouvés, je ne sais plus dans quel théâtre, avec eux.
Il y a eu plusieurs théâtres, le Divan du Monde.
Ils ont joué, on a chanté avec eux, c'était assez extraordinaire.
Oui. Il y a eu plusieurs spectacles, avec Noir Désir notamment, et puis des gens comme Nilda Fernandez, François Béranger. Il y a eu une semaine. Moi, j'avais participé particulièrement à la mise en place du programme de la semaine cinéma, dans différents cinémas dans Paris. On avait choisi des films qui ont été vus. Il y avait une semaine de théâtre aussi, avec des troupes de théâtre qui se sont succédées à Nanterre, sous chapiteau. Enfin, il y avait des événements très éclatés au Théâtre de l'Opprimé. Il y a eu l'exposition Tardy au Théâtre de l'Opprimé.
Cartier-Bresson qui avait fourni des photos.
Oui,
je sais pas si tu y étais,
sûr,
toi.
Chez Lucio Urtula, bien sûr.
Et qui a fourni des photos en disant voilà, vous prenez. C'est un ou deux albums.
Un recueil de photos.
À partir des photos qu'il a données.
Exactement, il était présent. C'est vrai que c'est un événement majeur. Donc ces gens-là avaient participé. Armand Gatti nous avait accueillis aussi, avait participé au débat. Enfin, on ne va pas rappeler tout ça, parce qu'il faudrait rappeler beaucoup d'événements.
Non, mais c'est juste pour situer, parce que depuis un temps mai 2000, ils ne savent pas trop.
Tu as raison. Et donc, nous, on s'est dit, mais pourquoi pas utiliser ces connexions qu'on a établies. Jacques Tardy et Dominique Grange venaient de rentrer à la CNT. J'avais pris leur carte au syndicat du spectacle, de la communication, de la culture et du spectacle. Et on s'est dit, il faut privilégier quand même ce lien, parce que ça nous donne une audience. Ça nous sort un peu du ghetto, comme mai 2000 nous avait sorti un peu du ghetto
tout
libertaire.
Fait,
Il y a eu des tas de gens qui nous ont rejoints à ce moment-là. Et voilà.
Je pense qu'on va terminer là, mais on va certainement prendre un autre rendez-vous. Monique me fait un grand signe. Je pense qu'il y a quelque chose d'important à dire.
Oui, je crois que vous avez oublié de donner le titre du livre dont vous avez parlé tout à l'heure. Sauf erreur grossière de ma part, il me semble que c'était Loin des sentiers battus, sachant que la Sorbonne Nouvelle est au métro Sentier d'Aubenton.
Exactement, et c'était aux éditions CNT. Je pense que vous pouvez encore le trouver, pour ceux que ça intéresse.
En tout cas, je l'ai à la maison. Écoute, Daniel, on te remercie beaucoup.
Et moi, je vais demander à Daniel de nous dire ce que l'on va écouter pour se quitter.
Alors là, on va écouter Lázaro Ross, un chanteur cubain, un chanteur de la Santería cubaine, qui va interpréter Barasu Ayo. Et il est accompagné d'un groupe qui s'appelle Mezcla, Mélange.
Merci Daniel, au revoir.
Thank you.